nous accueillons Anaïs Bouissou, journaliste radio. Nous sommes des élèves de la spécialité Humanité, Littérature, Philosophie. Et on a la chance de la rencontrer aujourd'hui, étant donné qu'on travaille la question de l'art de la parole, la question de l'oral et la transmission des arguments.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons mener un débat à propos de la quête du bonheur. Nassim défendra qu'il faut tenter de trouver le bonheur à tout prix, pendant que moi, je vais m'y opposer en défendant qu'il ne faut pas le chercher. Nous allons tous deux défendre notre idée à partir des thèses de deux grands philosophes de l'histoire de l'humanité, comme l'étaient Aristote et Immanuel Kant. Commençons. Donc pour moi, le bonheur est, comme le disait Kant, un idéal de l'imagination et non de la raison. C'est une idée flottante dans laquelle personne n'en sait le contenu et dont l'idée préconçue que nous avons n'arrive jamais à la réalisation attendue. Ce n'est pas une priorité et d'autres aspects comme la morale passent en premier.
En fait, Marc, je ne suis pas d'accord avec ta conception du bonheur. Pour moi, le bonheur, comme le disait Aristote dans sa thèse Eudémoniste, est le but de la vie humaine. C'est ce qu'il appelle comme souverain bien. Ce n'est pas un bien fourni par l'extérieur, mais qu'on doit trouver dans soi-même, dans sa propre activité. Le bonheur fait partie de ce qu'Aristote appelle la praxis.
Mais attends, Nassim, c'est quoi la praxis ?
Eh bien, c'est comme faire du sport ou écouter de la musique.
Mais va plus loin, Nassim. Que défend Aristote ?
Eh bien, Aristote, Marc, s'interroge sur la nature du bonheur. Ce qui représente le bonheur varie d'un individu à l'autre et même varie pour la personne en fonction des époques. Par exemple, notre idéal de bonheur à 20 ans n'est pas le même que lorsqu'on a 60 ans. Et aussi, le bonheur dépend de cette époque. Si je suis malade, mon idéal de bonheur sera la santé, mais si je suis pauvre, ça sera la richesse. Dès lors que le manque est comblé, le désir se porte vers un autre objet et l'idée que l'on fait de ce bonheur change de contenu. Aristote constate qu'il y a trois types de bonheur. 1. Une vie matérialiste, où on trouve le bonheur dans les objets. 2. Une vie politique, où on place le bonheur dans la gloire, les succès ou les honneurs. Et 3. Une vie intellectuelle, comme celle des sages, où on trouve le bonheur à l'intérieur de soi-même. Mais ces trois formes de bonheur ne tombent pas du ciel. Le plaisir, il faut le poursuivre. La gloire, il faut la gagner. Et la sagesse à l'intérieur de soi-même demande beaucoup de travail. Moi aussi, Marc, comme Aristote, je défends que le bonheur, il faut le chercher.
Donc moi, Nassim, après t'écouter, je constate que Kant pensait l'opposé qu'Aristote. Kant défendait que le vrai but de l'homme était de respecter la morale en cédant de la raison. Kant disait aussi que pourquoi chercher le bonheur puisqu'il n'arrivera jamais de la façon qu'on l'imagine. Je vais vous donner un exemple concret. Kylie Jenner est un des individus les plus riches de la planète et les plus connus aussi. Mais elle dit que, une fois t'es devenu immensément riche, pouvoir acheter n'importe quelle voiture provoque un bonheur qui dure 3 secondes. Pour conclure, je vais vous dire une chose. Si on a le mot bonheur dans notre vocabulaire, c'est parce que nous ne le sommes pas tout le temps. Arrêtons alors de chercher ce qui n'existe pas, et peut-être un jour, qui sait, sans nous en rendre compte, on verra qu'on est vraiment heureux.
Ok Marc, si j'ai bien compris, il ne faut pas chercher le bonheur.
C'est ça ce que je pense. Mais maintenant, c'est à vous auditeurs. Qu'est-ce que vous pensez ? Faut-il chercher le bonheur ou faut-il renoncer à cette quête existentielle ?
Alors Patricia, qu'est-ce que c'est l'amour ? Il peut nous rendre malheureux, vous le savez bien, mais alors est-ce qu'il faudrait renoncer ?
Non, il ne faudrait jamais renoncer à l'amour. Parmi d'autres choses, il nous aide à évoluer personnellement.
Mais quelle évolution personnelle ? Dans Roméo et Juliette, vous le savez bien, les personnes se suicident. Alors, est-ce que vous voyez le suicide comme une évolution ?
Ils sont heureux ainsi, leur vie n'a plus de sens sans leur amour. C'est leur choix de mourir. Il est parfois possible de, vivant sans amour, se retrouver vide dans le monde. Et c'est là quand la mort prend plus de sens que la vie.
Mais est-ce que c'est un choix, arrêter sa vie pour un autre ? C'est l'amour qui a décidé de les tuer, pas eux. Eux, ils auraient certainement voulu continuer à vivre. En plus, par rapport à l'évolution personnelle, vous sous-entendez donc que le malheur a une fin ? Mais comme dit Germaine de Staël, l'amour est une passion qui peut dévaster à jamais l'esprit comme le cœur. À jamais ! L'amour est une drogue. On vivra toujours avec le manque, comme les ex-fumeurs. Alors autant ne pas commencer une histoire d'amour. L'amour est une cigarette. On la fume au début, mais après c'est elle qui nous fume.
Est-ce que c'est si grave si on perd le contrôle ? Et si on arrête de se contrôler, si l'amour prenait le dessus ? Ça pourrait être beau aussi, non ? On pourrait aussi apprendre à se laisser aller. Les sociétés contemporaines ont une étrange obsession avec le contrôle, la surveillance, l'observation minutieuse de tout événement. Peut-être que la solution à ce stress généralisé est d'apprendre à être libre sans peur de l'inconnu. L'amour est la formule la plus primitive de liberté. Je vous donne un conseil, aimez autant que vous pouvez.
Que l'amour prenne le dessus est accepter alors une souffrance. Alors est-ce que dans le fond, l'humain n'aimerait pas souffrir? Il a peut-être besoin même de se faire du mal. L'expression « tomber amoureux » le dit bien. L'amour est un piège, on tombe et on peut se faire très mal avec la chute. Et pourtant, on le sait parfaitement, mais on tombe quand même, et peut-être plusieurs fois même. L'homme est le seul qui trébuche deux fois sur la même pierre. Alors bon, tombons, jeunes gens, après tout, nous sommes que des êtres humains.
La chute n'est qu'un des innombrables passages de la vie. Tomber et se faire mal, ce n'est pas toujours négatif. Mais dites-moi, quand vous étiez petit, ça vous est jamais arrivé de rire après tomber de vélo? Ces moments nous rendent aussi heureux car nous savons que cette promenade en bicyclette nous apportait du bonheur et que la chute n'a été qu'un épisode de l'aventure. Renoncez-vous à tout plaisir par peur des obstacles? Moi non, et encore moins si l'amour est en jeu. Je pourrais même conclure que la vie est basée sur l'amour. Toute chose qui vient de l'humain découle de l'amour, par un manque, par un excès, par la séparation de deux amoureux. La tristesse, la rage, la déception, même l'indifférence est une conséquence de l'amour. Une femme qui accouche, de l'amour. Un homme qui peint un jardin, de l'amour. Une petite fille qui pleure dans un enterrement, de l'amour. Une professeure qui enseigne à ses élèves, encore une fois, de l'amour. Pourquoi voulez-vous donc vous abstenir d'aimer et par conséquent, de vivre ?
Bonjour.
Bonjour.
Zoé, je vais faire un discours sur le genre avec Alia. Et donc on va commencer. Imaginez avoir votre premier enfant. La sage-femme vous annonce que c'est une fille. Vous sautez de joie à la seule idée de devoir réfléchir à quel prénom vous allez lui donner. Marie, Zoé, Emma, que des jolis noms vous sautent à la tête. Et maintenant, imaginez la chambre que vous allez préparer. Rose sûrement, des couleurs claires, pastel. Premier doudou, une petite peluche rose. Ou encore une poupée. Vous allez lui dire « Sois gentil chérie, parle moins fort, sois poli. S'il te taquine, c'est parce qu'il t'aime bien. » Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Oh ma princesse, oh ma poupée. Maintenant, imaginez la même situation, mais cette fois c'est un garçon. Louis, Gabriel, Hugo, Gabin, Nathan. Des couleurs plutôt noires, vert, marron, bleu. Des jouets, des voitures sûrement ou des armes. Parle plus fort, pleure pas, sois fort. 92% des présidents sont des hommes. Et cela, dû à une faiblesse du sexe féminin? Ou à une idée construite des genres dans notre société? Comme dirait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient.
Donc le sexe fait référence aux organes sexuels à la naissance, qui peuvent être soit mâle, soit femelle, alors que le genre est une idée totalement différente, qui fait juste référence à une idée construite par la société, et on confond ces deux définitions. Cela crée des problèmes pour certaines personnes qui, à la naissance, sont attribuées à un sexe, mais au cours de leur vie se rendent compte qu'ils ne s'identifient pas au genre qui est lié à leur sexe. Pour ça, nous, en tant que société, nous devons faire cette séparation pour qu'il y ait une liberté de décision pour ces personnes qui sont forcées à la naissance d'appartenir à un genre qui ne leur correspond pas du tout. Et en plus, sans cette notion de genre, le patriarcat, ça n'existerait plus. Pour vous, qui ne savez pas ce qu'est le patriarcat, vous devriez peut-être suivre un tout petit peu plus l'actualité. Donc, c'est une société dans laquelle l'homme détient le pouvoir, que ce soit au niveau familial, gouvernemental ou même monétaire. Dans notre société, non seulement les genres sont fortement différenciés, mais il y a une hiérarchisation qui est mise en place entre ces deux genres qui s'est formée depuis le début de l'histoire et qui inflige aux femmes la soumission et qui force les hommes à avoir un rôle dominant au foyer, au travail, à l'école, depuis le plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Le féminisme, dont le combat est très médiatisé actuellement, essaye de casser ces codes ancrés depuis des centaines d'années dans notre société. Ce serait un bon changement, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. C'est aussi dans ce débat-là que rentre la théorie queer, que soutiennent de nombreuses personnes, dont la philosophe américaine Judith Butler. Donc cette théorie-là crée certains conflits avec le mouvement féministe, puisque si elle était appliquée dans notre société, ce féminisme-là ne serait plus valable et tous ses acquis n'auraient plus de sens. Un des principes défendus par le féminisme et par certaines philosophes de la théorie queer et justement la différence entre le sexe et le genre.
Maintenant, imaginez avoir un enfant. Il a des organes sexuels masculins, mais il ne se sent pas garçon. Judith Butler dit « Les corps ne naissent pas mâles ou femelles », ce qui rejoint l'idée de Simone de Beauvoir, que le genre est une idée construite par la société. En sachant cela, vous, en tant que parent, quelle serait votre réaction ?